fait croire qu'on était heureux. Pas de révolte ici, rasseyez-vous. Endormis, ils nous ont bandé les yeux. Faites-nous confiance, suivez-nous. Les routes que nous empruntons chaque jour leur appartiennent. Leurs grandes paroles, leurs beaux discours, douces sirènes. Ce royaume d'aveugles et de sourds, notre prison de verre. Et malheur à qui voudrait au grand jour briser ses chaînes. Nos dictateurs ont tracé notre chemin. Ils ont balisé la route pour notre bien. Bâti des murs pour qu'on ait plus peur de rien. Malheur à qui voudrait sortir du droit chemin. Ils avaient pris le contrôle sur nos vies, sur nos âmes. Ils avaient brûlé nos écrits, éteint notre flamme. Hold up mental, sans scrupule, ils se sont servis. Quand nous n'étions que des moutons endormis, asservis. Ils nous ont tout pris, ils nous ont tout volé. Nos soleils, nos lunes, nos printemps, notre humanité. Nos rêves d'un autre monde, vite partis en fumée. Pour eux, nous n'étions pas des rebelles, juste une bande de fumiers. La peur régnait sur nos villes, jusque dans nos campagnes. Leur drapeau sur le plus haut sommet de la plus haute montagne. Ils avaient gravé leur empreinte indélébile. Dans ce monde futile débile, nous n'étions que des indociles. Affamés de liberté, nous sommes sortis du rang. Nous avons marché usant nos semelles des semaines durant. Nous avons quitté leur chemin, nous nous sommes évadés. On a pris la tangente, nous éloignant des sentiers balisés. Nous sommes passés de l'autre côté de leur mur, de l'autre côté de leur monde, de l'autre côté de leur parure. L'amour et la soif de justice pour seule armure. Ils se moquaient de nos idéaux, bons à jeter aux ordures. Notre refuge, pas un palace trois étoiles. Juste une forêt sauvage où les branches craquaient sous nos pieds sales. Pas de forteresse, pas de château imprenable. Juste une maison sans toit, ni porte à la portée des étoiles. Leurs règles, leur mode de vie, de pensée, leur jeu de rôle. Nous nous en sommes affranchis, on a pris notre envol. Nos amis nous demandaient de revenir à la raison. De rentrer au bercail, de revenir à la maison. Pourquoi tant de révoltes, tant de rébellions? Ils préféraient de loin jouer à qui veut gagner des millions. Ils n'ont pas compris qu'à la table des grands de ce monde, il n'y aura jamais, au grand jamais, à manger pour tout le monde. Si puissant à les combattre, on s'y casserait les dents. Mais la patience est dans l'histoire aussi, connaît ses tournants. Tel un virus, notre folie fera contagion. On sera des centaines de milliers, des millions. C'est écrit, ils ne pourront rien y changer. C'est écrit, et quand nos rois sont humiliés, ils voudront mater la rébellion vaille que vaille. Ils viendront sur nos terres pour en faire leur champ de bataille. C'est bien connu, les colons n'aiment pas les colombes. Ils enverront leur faux consciemment creuser notre tombe. S'il faut prendre les armes, on saura se défendre. Pas assez fils, mais pas assez fou pour se laisser pourfendre. La victoire, je la vois, je la vis, je l'envisage. J'en vis ce moment où les sourires fleuriront sur nos visages. Déjà j'entends crier l'armada des rebelles dans l'âme.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité. La radio libre de la Fédération anarchiste, et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Alors aujourd'hui, nous vous proposons la rediffusion d'une émission où nous invitions Jean-Manuel Trémont pour son livre « Comprendre nos choix ». avec la psychologie de la motivation de Paul Diehl. Écrivain et conférencier, Jean-Manuel Trémont s'intéresse à la psychologie de la motivation qu'il s'efforce de mettre en pratique dans sa vie personnelle depuis 3 décennies. Alors, c'est un livre qui est paru aux éditions de la Chronique sociale cette année, en 2023. Et la Chronique sociale est à la fois un organisme de formation et de recherche et une maison d'édition fondée à Lyon en 1892. Elle s'est préoccupée dès ses origines de sensibiliser aux évolutions de la société et de suggérer une organisation de la vie collective plus solidaire et plus respectueuse des personnes. Voilà, alors Paul Diehl, on va expliquer qui était, pendant cette interview, qui était ce Paul Diehl, qui a produit des écrits sur une psychologie qui s'appelle la psychologie de la motivation. Eh bien, on écoute cette interview de Jean-Manuel Trémont. Juste le temps qu'il faut pour appuyer sur le petit bouton. Nous avons tant de raisons de nous intéresser à la psychologie, que ce soit pour mener notre vie de tous les jours, pour trouver un équilibre plus serein, pour asseoir sur des bases solides la sagesse et la morale, pour s'orienter dans un monde déroutant ou satisfaire notre curiosité concernant notre complexe monde intérieur. En se fondant sur une méthode d'auto-observation, le psychologue franco-autrichien Paul Diehl, mort il y a un demi-siècle, a élaboré une description réaliste du fonctionnement psychique dans ses différents aspects, sains ou malades, conscients ou inconscients, rationnels ou illogiques, pour nous rendre accessible cette magistrale théorie de l'équilibre mental et pour nous faire apprécier ses nombreuses applications concrètes, l'auteur nous guide dans un voyage au centre de la tête aussi fascinant qu'utile. Jean-Manuel, bonjour. On va parler de ton livre Comprendre nos choix avec la psychologie de la motivation de Paul Diehl, paru aux éditions Chroniques sociales.
Tout à fait.
Et qui nous a ici intéressé à notre émission L'Entonnoir, puisqu'il s'agissait non pas de psychothérapie tout à fait, mais disons de quelque chose qui fait aller vers le rétablissement quand on est malade, ou quelque chose aussi comme se comprendre soi-même dans la vie quotidienne pour tout le monde.
Absolument, l'intérêt de cette théorie psychologique de Paul Diehl, c'est que c'est effectivement un instrument dont tout le monde peut se servir. Bien entendu, des psychothérapeutes peuvent s'en servir pour opérer des psychothérapies, mais c'est une théorie relativement simple, extrêmement flexible, extrêmement efficace, et qui peut servir à des tas de moments de la vie. Ça n'est pas une théorie qui vise à aider les gens qui sont dans une psychose abominable, qui ont des névroses franchement difficiles, qui ont du mal à s'en tirer. C'est une théorie pour les gens, alors je ne veux pas dire normaux, mais je veux dire les gens dans la vie quotidienne. Et on peut avoir, c'est une théorie qui s'adresse à des niveaux de difficulté relativement variés, donc à nouveau pas les trucs extrêmes, mais ça peut être qu'on a du mal à comprendre sa famille, à comprendre l'autre partenaire de son couple, ça peut aussi être qu'on a du mal à se comprendre soi-même, pourquoi est-ce qu'on a fait tel ou tel choix dans la vie, ou bien on a fait tel ou tel choix, puis on se rend compte que c'est pas un choix très satisfaisant, et on se pose la question, mais pourquoi est-ce que c'est insatisfaisant? Et le grand avantage de cette théorie, c'est que elle fait constamment appel à des concepts, des notions, des explications qui sont de vrai bon sens, qui sont complètement ancrés dans la vie quotidienne, dans la vie réelle, dans la situation réelle des êtres humains. Également, c'est une théorie qui s'adresse absolument à tout le monde sur la planète. On peut l'appliquer, qu'on soit japonais, sud-africain, français, qu'on vive en Alaska, à Tahiti ou à Bécon-les-Bruyères, ça n'a strictement aucune différence, c'est prodigieux, c'est une théorie qui n'a pas besoin d'adaptation à tel ou tel milieu, à tel ou tel milieu, alors milieu à la fois social, politique, psychologique, culturel, c'est vraiment extrêmement utile. J'aurais tendance à parler de cette théorie, si on devait comparer des outils. Il y a certaines théories qui sont des marteaux-piqueurs, il y a certaines théories qui sont des prisons, il y a certaines théories qui sont des scalpels. Eh ben, la théorie de Paul Diehl, c'est le couteau suisse. Ah, c'est le truc drôlement pratique qu'on a dans la poche.
Oui.
Puis alors, c'est le machin qui peut servir absolument tous les jours, qui sert à des tas de choses, qui ne coûte pas cher, ni à entretenir, ni à acquérir. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu présenter cette théorie.
Voilà, donc on le voit comme une fenêtre aussi sur un petit peu notre fonctionnement psychique à nous-mêmes et, voilà, et à autrui. Mais pour mieux connaître, enfin pour mieux entrer dans cette psychologie de la motivation de Paul Diehl, la question que je te pose maintenant, c'est qui était Paul Diehl ?
Alors, Paul Diehl. Paul Diehl, c'est très important. C'est un Viennois, fils d'Allemand d'ailleurs, fils d'une Allemande, et il n'a jamais su qui a été son père. Déjà, comme départ dans la vie, c'est pas très simple. Alors, il est né à Vienne. À Vienne, aussitôt, on va dire, ah ouais, Freud. Effectivement, il y a quelque chose là-dedans. Mais, comme sa mère n'est pas spécialement riche, eh bien, il est d'abord placé en famille d'accueil, puis on l'emmène à 4 ans dans un orphelinat religieux, dont il va avoir des souvenirs absolument abominables. Et il est très malheureux et il espère que sa mère viendra le sortir de cet établissement. Il va aller au lycée, il va sortir de l'orphelinat enfin quand il aura 13 ans. Et puis, manque de bol, quand il a 14 ans, sa mère meurt d'un cancer. Donc là, il est vraiment totalement orphelin à 14 ans. Alors, il a de la chance, il va y avoir la famille d'un camarade qui va l'aider. Mais, il va pas au départ réussir socialement tellement. Il va devenir, non pas, on dirait pas SDF, mais enfin, il va un peu merdoyer. Et il a de la chance parce que quand la Première Guerre mondiale arrive, comme il avait été blessé au cours d'un duel, et qui s'était tapé une septicémie, eh bien, fort heureusement pour lui, il va échapper à la Première Guerre mondiale et donc au massacre. Et puis, il va essayer un peu de théâtre, il va rencontrer une jeune Française qui s'appelait Jane Bloom et qui deviendra plus tard sa femme. Il va essayer de revenir en Autriche, il découvre la psychanalyse et la psychiatrie, il trouve Freud tout à fait intéressant, Adler aussi, et il va écrire un livre qui va être publié en 1933 qui s'appelle Fantasy und Realität, le fantasme et la réalité, et il va avoir le grand coup de bol de sa vie. Parce qu'il va envoyer le manuscrit de ce livre à Einstein, Albert Einstein. Et Einstein, fort heureusement, va trouver le livre fabuleux et à long terme, je dis bien à long terme, ça va aider Diehl. Alors, comme on le sait, 1938, craque, les Allemands entrent en Autriche, Diehl ne veut pas rester là, d'autant que sa femme, quoique française, est également juive, donc évidemment c'est très malsain de rester en Autriche. Donc il arrive en France. En 1939, il va avoir un poste de psychologue à Sainte-Anne, grâce à la recommandation d'Einstein. Il s'engage dans l'armée française, rien n'arrive, parce que, comme tu sais, drôle de guerre.
Oui.
Et puis, Vichy va rassembler les étrangers allemands, parce qu'évidemment, les nazis pensent que les étrangers allemands à Paris, ça doit être principalement des traîtres. Et puis, donc, le pauvre Diehl se retrouve au camp de Gurs, l'un de ces camps pas très fabuleux. Il va continuer à écrire dans dans ce camp, et en particulier le livre qui deviendra Psychologie de la motivation. Et puis, à la libération, coup de bol, un, il retrouve sa femme, et deux, il va réussir à obtenir un poste au CNRS. Et puis, à partir de là, il va écrire toute une série de livres, et il ne décédera que, fort heureusement, en 1972. Et alors là, il faut tout de suite comprendre quelque chose avec la psychologie de la motivation en règle générale, et mon livre en particulier.
Oui.
C'est que comme Diehl, au départ, c'est donc un Autrichien, c'est donc quelqu'un de langue maternelle allemande et autrichien. Donc la manière dont il veut communiquer est d'abord une manière, on va dire, germanophone. Alors, il parlait très bien français, c'était pas un problème, il écrivait très bien le français, mais il va écrire en français en pensant comme un germanophone. Et le problème des germanophones, en particulier des germanophones très intelligents, très érudits, qui parlent de philosophie et de psychologie, c'est que c'est un petit peu étouffe chrétien.
Oui.
Alors, je ne sais pas si tu t'es jamais essayé de te taper, par exemple, du Heidegger.
Ah oui.
Le Dasein. Alors, l'être de l'étang n'est pas l'étang de l'être. Pardon.
Oui, oui, oui.
Bon, là, j'exagère. Diehl n'écrit pas comme ça. Mm-hmm. Diehl a voulu essayer de ne pas écrire comme ça, mais il sait qu'il est quand même rencontré un obstacle. Il a pondu tout un tas de notions fort intéressantes, extrêmement utiles, qui dans sa tête étaient parfaitement claires, qu'en bon germanophone, il a voulu exprimer dans ses livres de manière extrêmement précise, de manière qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et de fait, quand on lit ses livres, si on fait l'effort de bien suivre les exposés de chaque notion, elles sont effectivement exposées sans un gramme d'ambiguïté. Le problème étant qu'elles sont exposées avec un vocabulaire qui est son vocabulaire. Alors, entendons-nous bien, ce sont des mots français.
Oui.
Il a fait quelques néologismes, pas tant que ça, mais ce sont des mots français. Et quand il fait des néologismes, ces néologismes suivent parfaitement la morphogenèse française, la prononciation française. Seulement, voilà, à chaque fois, c'est surprenant. Soit qu'il recycle un mot français, et qu'il lui donne une acception, mais alors très 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 minoritaire, lointaine, que 14 érudits connaissent, et encore, et il l'a pêché quelque part, et ça lui convient, et vlam, il vous envoie ça dans les gencives. Ou bien, ce sont des mots, c'est parfois d'ailleurs plus difficile encore, ce sont des mots relativement banals, et auxquels il va donner une acception très précise. C'est-à-dire que le problème, c'est que très souvent, les mots, c'est polysémique. Et lui, quand il utilise un mot, ça n'a qu'un seul sens. Mais pour le lecteur, c'est pas facile, parce que le lecteur, quand il voit ce mot, il a tous les autres sens dans la tête. Et donc, c'est encore le principal handicap de sa théorie.
Un exemple, par exemple, c'est le mot banalisation.
Ah, voilà. Alors, la banalisation. Et à la fois, on se dit, ben oui, la banalisation, c'est très clair. Le fait d'être banal, c'est le fait de ne pas être original. Non, la banalisation, selon Diehl, c'est le fait de chercher la satisfaction dans les plaisirs les plus simples, les plus matériels, les plus directs et les plus conformistes. C'est-à-dire, c'est la piste du moindre effort. On va chercher le plaisir là où il est le plus facile à obtenir. Alors, on voit la différence. Si on dit à quelqu'un, ça veut dire quoi la banalisation ? Enfin, un francophone normal, ça veut dire quoi la banalisation ? Il va dire, ça veut dire le fait de choisir systématiquement ce qui est de plus banal, donc de plus commun, de plus fréquent. Ah non, c'est beaucoup plus précis que ça.
Voilà.
Et voilà exactement le type de problème auquel est confronté le lecteur de Diehl. Donc, ça veut dire que quand on lit les livres de Diehl, on est obligé de faire cet effort de rigueur intellectuelle constant. Alors, évidemment, quand on demande au lecteur de fournir un gros effort de rigueur intellectuelle, on se condamne à ne pas vendre beaucoup de livres. Alors, fort heureusement pour Diehl, il a pondu un livre qui a fait en sorte que Payot, son éditeur principal, et quasi unique, continue à vendre ses livres parce que c'est le seul de ses livres qui se vend très bien et qui s'appelle « Le symbolisme dans la mythologie grecque ». Alors qu'est-ce qui se passe ? Quand les gens voient ce titre et que c'est de la bibliothèque Payot, la petite bibliothèque Payot, ils disent « bon, ça c'est un livre sérieux qui va m'expliquer la mythologie grecque ». C'est effectivement un livre des plus sérieux et qui donne l'une des meilleures interprétations de la mythologie grecque. Mais, bien évidemment, pour lui, c'était juste une manière de montrer quels sont les mécanismes, les obstacles, les erreurs, les bonnes idées que nous mettons en œuvre dans la vie face aux problèmes que nous rencontrons, en utilisant des exemples que tout le monde connaît, Hercule, Tantale, Midas, tous les héros de la mythologie grecque. Ça marche fabuleusement bien, et donc le livre continue à se vendre. Et puis alors après, il y a deux solutions. Ou bien les gens, quand même, ils se sont aperçus que le livre était extrêmement intéressant, mais quand même un petit peu complexe, un petit peu étouffe chrétien, que c'était pas si simple à lire, et ils passent à autre chose. Ou bien, c'est une minorité malheureusement, ils disent, tiens, il y a un truc intéressant, et donc ils voient ce qu'il y a d'autre de Paul Diehl. Alors souvent, ils prennent le qu'est-ce que c'est le titre déjà ? C'est le symbolisme dans la Bible ou le symbolisme de la Bible, je ne me souviens plus très bien, mais enfin bref. Et le cas échéant, plus tard, ils arrivent à des ouvrages un peu plus austères encore, comme par exemple la psychologie de la motivation ou éducation et rééducation, etc. Alors moi, qu'est-ce que je me suis dit ? Je me suis dit la chose suivante. D'abord, symbolisme dans la mythologie grecque, c'est effectivement, comme tout le monde, moi c'est le premier livre de Diehl que j'ai lu, et je l'ai lu il y a... J'ai 63 ans, donc on va dire que je l'ai lu il y a entre 50 et 52 ans, un truc dans ce goût-là.
D'accord, bon, je vois.
Il y a vraiment longtemps. Oui. Et puis, ben moi, j'avais malheureusement choisi la première solution, c'est-à-dire que j'en suis resté là, c'était intéressant, mais enfin bon, je le garde dans la tête. Et c'est beaucoup plus tard que, revenant, puis voyant que quand même Diehl, il avait écrit d'autres choses, je me dis, tiens, c'est quand même un peu... Et je commence à en lire quelques-uns d'autres, et je m'aperçois que c'est très intéressant. Et donc, je fournis un certain effort pour comprendre cette théorie. Alors, incidemment, il faudra que je suis le fils d'une psy. Oui. Et donc, l'avantage, c'est que les livres de Diehl étaient dans la bibliothèque de ma maman. Ce qui, évidemment, m'a beaucoup aidé. Et puis, alors là, c'est de manière beaucoup plus récente. Je rencontre, il y a quelques années, un copain physicien qui s'appelle François Graner. Et François Graner, lui aussi, sa maman, elle est psychothérapeute. Mais sa maman, elle est psychothérapeute diehlienne. Elle est membre de l'Association pour la psychologie de la motivation, qui est le groupe qui rassemble les psychothérapeutes diehliens.
Il y a bien une psychothérapie diehlienne.
Il y a bien une psychothérapie diehlienne, et les psychothérapeutes diehliens sont des gens très honnêtes, qui, d'abord, ils vous écoutent, et puis après, ils se demandent si vous êtes venu frapper à la bonne porte. C'est-à-dire que si vous avez des choses où ils se disent, non, notre théorie va pas être la plus efficace pour aider le problème précis de cette personne, ils vous vont envoyer vers d'autres personnes. Et de fait, quand on regarde un peu le site de l'association, quand on regarde un peu ce qu'ils écrivent, ils disent, voilà, nous, on va vous aider pour telle ou telle chose. Et donc, par implication, vous voyez, par exemple, si on a des hallucinations, des délires psychotiques incontrôlables qui vous arrivent dans la figure, vous n'avez pas ce qu'en faire, la psychologie de la motivation, elle n'a aucune chose à vous dire là-dessus. Et ils vont vous dire, non, vous n'êtes pas venu frapper à la bonne porte, oui. Mais voilà, je vous conseille madame une telle ou monsieur un tel. Mmh. En revanche, si, justement, par exemple, on se dit, ah oui, mais... Oh, mon métier m'emmerde et je me sens pas satisfait et qu'est-ce que je pourrais faire quand j'avais 15 ans, je pensais faire ça. Là, voilà exactement le type de question où une ou un psychothérapeute diehlien va pouvoir vous aider à voir clair en vous-même. Parce que c'est ça le but. C'est pas que le psychothérapeute, du haut de sa chair et avec ses scalpels, vous manipule le cerveau et vous renvoie tout propre, tout net. Non. C'est de vous donner les outils et de vous aider pour que vous, vous regardiez dans votre tête, dans votre vie, dans votre relation à autrui. Et c'est toutes ces choses-là ont la même valeur. C'est une introspection, mais c'est également une analyse de quelles sont vos relations avec autrui. Et en vous enseignant donc tous les concepts de la psychologie hegelienne, ça vous donne également des outils pour vous comprendre jusqu'à un certain point autrui, ce qui est évidemment extrêmement utile.
Oui.
Parce que quand vous vous trouvez face à quelqu'un, alors par exemple pour prendre l'un des problèmes psychologiques de très loin les plus répandus dans le monde, la vanité, la psychologie d'Hélène qui s'occupe beaucoup de la vanité va d'abord vous faire comprendre comment est-ce que vous êtes vaniteux, et puis elle va vous faire comprendre comment et pourquoi, jusqu'à un certain point, les autres sont vaniteux. Et donc, ça vous permet à vous d'essayer de trouver vos solutions pour résoudre vos problèmes quand vous êtes en train d'interagir avec quelqu'un qui est très vaniteux, puis peut-être que vous vous en rendiez pas compte vous-même, vous aussi vous êtes vaniteux dans un certain contexte, parce qu'il y a également quelque chose. La psychothérapie d'Hélienne essaye beaucoup de ne pas mettre des étiquettes sur les gens.
Oui.
C'est-à-dire qu'elle prend pas quelqu'un, elle dit « vous êtes un vaniteux ». Parce que, bon, moi par exemple, quand je m'analyse moi-même, quand je me regarde moi-même, je pense qu'il y a quelques domaines où je suis pas entièrement mécontent de moi-même, on va dire. Donc peut-être que les gens en face, ils disent « Ouais, Jean-Manuel, quand on parle de ci ou de ça, alors là, il se la pète, il est vaniteux ». Mais je sais qu'il y a d'autres domaines où je suis totalement non vaniteux. Si tu me demandes de réparer une voiture ou de comprendre mon ordinateur, je vais te dire « Ah non, là je suis un crétin complet ». Donc, et ça c'est le cas de tous les gens à nouveau plus ou moins normaux. Dans certains contextes, on a telle attitude, et puis dans d'autres contextes, on a telle autre attitude. Et donc à nouveau, la psychologie d'Hélienne, son maître mot, c'est la flexibilité. On regarde quelle est la réalité, ici, maintenant, et on commence à réfléchir à partir de ça.
Donc par rapport à ça, il y a deux voies, il y a un système d'interprétation et une méthode d'action.
Absolument. Alors, le système d'interprétation, il est basé sur la théorie de ce que Diehl appelle le fonctionnement psychique satisfaisant et le fonctionnement psychique insatisfaisant. Et pour comprendre ces deux fonctionnements psychiques, il faut comprendre quel est le mécanisme psychique le plus fréquent auquel nous recourons pour décider de nos actions diverses et variées, voire aussi de nos perceptions. Il appelle ça la délibération. Alors, qu'est-ce que c'est que la délibération ? Ben, premièrement, la délibération, ça consiste à se dire, qu'est-ce que c'est qui se passe là maintenant ? Par exemple, là, nous sommes tous les deux dans un studio, tu es en face de moi, je suis en face de toi. Donc, à chaque instant, nous posons la question, qu'est-ce que Jean-Manuel vient de me dire ? Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que je voudrais qu'il dise ? Et ça, à chaque fois, qu'est-ce que je voudrais qu'ils disent, ça va changer au fur et à mesure qu'on va discuter. Tu avais déjà quelques idées là-dessus avant l'émission, puis en m'écoutant, éventuellement, tu vas un peu changer de voix, ou tu vas dire au contraire, ah ben non, ça je veux creuser. Tu vas peut-être te dire, ben, il m'en a pas dit assez, creusons. Ouh là là, il m'en a déjà trop dit, changeons de sujet. Donc, tout d'abord, on prend ce qui est. Et pour prendre ce qui est, on démarre avec une représentation mentale. On se dit, voilà, dans notre tête, on dit, voilà, Jean-Manuel, il vient de me dire ça, il vient de faire ça, elle peut être visuelle, elle peut être auditive, elle peut être purement théorique. Bon, d'accord. Là où les choses à la fois se compliquent et deviennent très efficaces, c'est que nous, êtres humains, nous avons une capacité extraordinaire, qu'ont peu d'animaux, ou quand ils l'ont à un degré très, très faible, on peut imaginer. Donc on peut créer dans notre tête des versions illusoires de la réalité. Alors qui sont soit la réalité qu'on désire, soit la réalité dont on pense que c'est ce qui va arriver. À supposer par exemple que je décide tout d'un coup de me lever et de te dire « je te déteste ». Ma foi, ça pourrait être une chose qui va arriver. Et si j'ai cette image, à ce moment-là, je vais la peser. Je vais me dire, mais elle est bonne, elle n'est pas bonne. Et ça veut dire quoi, elle est bonne, elle n'est pas bonne? C'est-à-dire, est-ce qu'elle va me procurer de la satisfaction? Et là arrive quelque chose d'extrêmement important, que toutes les autres théories psychologiques connaissent très bien, mais Diehl a l'avantage de le poser de manière extrêmement simple. Et c'est ce que j'appelle, moi, dans mon langage à moi, la satisfaction illusoire. C'est-à-dire que, à supposer qu'au lieu d'être dans une plaisante émission sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans mettre sans publicité,
rappelons-le,
nous soyons à un interrogatoire. Et que tu sois un flic, et que je sois un résistant, et que la pensée diehlienne soit pourchassée, que tu me poses des questions, eh bien, par exemple, toi, la satisfaction illusoire que tu vas avoir, grâce à mon génie, ou grâce à ma brutalité, Jean-Manuel va tout avouer, et tu m'imagines en train d'avouer des horreurs. Moi, je m'imagine en brave résistant, résistant à la torture, ou à la subtilité, et ne révélant rien du tout. Et puis la réalité va peut-être être l'une, l'autre, entre les deux. Et le problème des satisfactions illusoires, c'est que ces satisfactions illusoires peuvent nous apporter plus de satisfaction que la réalité. Et là commence évidemment le problème. Parce que d'un autre côté, cette capacité d'imaginer, cette capacité d'avoir des satisfactions illusoires, c'est ça qui nous permet d'inventer, c'est ça qui nous permet de prévoir, c'est ça qui nous permet de négocier, c'est ça qui nous permet de consoler, de rassurer, d'aimer. Mais ça peut faire tout le mal possible. Alors, pour mieux comprendre la notion de satisfaction illusoire, c'est très simple, la masturbation. Quand on se masturbe, eh bien, on imagine ceci, on imagine cela, seulement la belle blonde, le beau brun avec lesquels on désirerait faire des choses délicieuses, il n'est pas là, elle n'est pas là. N'empêche que ça a bien un résultat physiologique clair. Et donc, l'une des choses de base du système d'interprétation diehlien, c'est de faire en sorte qu'on comprenne dans notre propre tête, est-ce que ce que je suis en train de rechercher, est-ce que c'est juste une satisfaction illusoire? Est-ce que ça sera une vraie satisfaction? Est-ce que ça sera une vraie satisfaction, le cas échéant, à long terme? Bon, évidemment, parfois on se pose des questions qui sont juste des questions à court terme. Mais prends par exemple le choix d'un métier, c'est très évident que ça, est-ce que ça va être une satisfaction sur le long terme? Est-ce que si je suis éboueur pendant 20 ans, ça va m'apporter de la satisfaction? Et il y a des tas de gens pour qui ça apporte une grande satisfaction. J'en ai connu. Et donc le problème, c'est que les satisfactions erronées peuvent être tellement séduisantes qu'on s'y accroche, alors qu'en réalité, elles ne nous apportent pas de vraies satisfactions. Alors, tu parlais de méthode d'action. Donc, ça commence toujours par l'introspection. Il faut d'abord se poser des questions. Alors, que ce soit un problème purement personnel, ou que ce soit un problème relationnel, voire que ce soit un problème qui ne se pose pas à moi, mais par exemple, je suis marié et ma femme a un problème avec sa mère. Et puis ça m'intéresserait que ma femme soit heureuse et qu'elle n'ait plus de problème avec ma mère. De toute façon, dans tous ces cas-là, on commence d'abord par se poser la question, moi, est-ce que je perçois la réalité? Comment est-ce que je perçois la réalité? Est-ce que je la perçois de manière juste ou de manière erronée? Ensuite, on se pose la question, quel est mon rapport avec autrui? Est-ce que mon rapport avec autrui est juste, sain, basé sur la réalité, basé sur mes désirs, les désirs d'autrui, la société dans laquelle nous sommes, et éventuellement, bon, dans le cas de la femme et de l'épouse et de la mère, eh bien, est-ce que mon épouse a un rapport sain avec sa mère? Est-ce que sa mère a un rapport sain avec elle? C'est-à-dire, on voit par exemple l'utilité pour les parents, hein, bien entendu. Est-ce que, par exemple, je suis maman de Jacques et de Jean. Jacques et Jean se cassent la gueule, se fritent toutes les deux heures. Où est le problème? Quel est le problème? Est-ce que déjà, est-ce que moi je suis parti du problème? Si par extraordinaire je ne suis pas parti du problème, quel est le problème entre gens? Quel est le problème entre gens? Et il ne s'agit pas de déterminer évidemment un coupable et un innocent, encore que, mais il s'agit de comprendre pourquoi, s'il y a un coupable, pourquoi est-ce qu'il est coupable? S'il y a un innocent, pourquoi est-ce qu'il est innocent? Et plus vraisemblablement, où est-ce que ça coince et où est-ce que c'est parti dans le mur? Donc on voit que ce sont vraiment des choses à nouveau très simples. Très simples. La base intellectuelle est très simple. Évidemment, on sait pertinemment que dans la réalité, les choses peuvent devenir monstrueusement compliquées. Mais ce réflexe de commencer par soi-même, et puis d'essayer, non pas de se dire à qui la faute, mais de se dire, est-ce que les représentations, les interprétations, est-ce qu'elles sont basées dans la réalité ? Ou est-ce qu'elles sont basées sur des satisfactions illusoires? Ça, c'est déjà un premier filtre qui est extrêmement important. Alors, il y a un deuxième outil qui est prodigieusement utile et, fort heureusement, Diehl a résisté à la tentation qu'ont tant d'autres fondateurs de théories psychologiques, qu'une fois qu'ils ont trouvé un outil, ils disent « mais ça convient pour tout ». Alors, c'est les psychanalystes obsédés par le complexe d'Œdipe qui le voient partout. Bon, le complexe d'Œdipe, oui, c'est certainement très fréquent. Enfin bon, ça n'explique pas toute la personnalité humaine. Maintenant, je pense qu'il n'y en a plus beaucoup, mais par exemple, ça pourrait être les adlériens fanatiques pour qui le complexe d'infériorité, ça explique tout. Et on peut prendre absolument toutes les autres théories psychologiques. Alors, en général, une théorie psychologique présente un outil et dit « Ah, ça y est, on a tout trouvé ». Le bel outil de Diehl, mais dont, à nouveau, il faut bien comprendre que c'est juste un point de départ, que ça vous permet simplement de commencer votre introspection, puis après, vous pouvez aller beaucoup plus loin et faire des tas de choses. C'est un carré, une espèce de petit carré. Alors, je l'ai appelé le carré des estimes. L'estime de soi, l'estime d'autrui. Et pourquoi est-ce que c'est un carré? Ben, c'est très simple. Dans le carré, si vous prenez l'axe vertical, c'est-à-dire ce qu'il y a en haut dans le carré, c'est la surestime. Donc l'estime excessive. Mm-hmm. Ce qu'il y a en bas, c'est la sous-estime. Donc le fait de ne pas estimer assez. Puis évidemment au milieu, c'est l'estime juste au bon niveau. Et à gauche, c'est le soi. Donc est-ce que moi je me surestime ou est-ce que je me sous-estime? Et à droite, c'est autrui. Est-ce que je surestime autrui? Est-ce que je sous-estime autrui? Donc, vraiment, c'est pas compliqué. Hein. C'est quatre questions.
Oui.
Est-ce que moi, je me surestime? Ou est-ce que je me sous-estime? Est-ce que je surestime autrui? Alors, par autrui, c'est qui on veut. Ça peut être autrui, ça peut être ma maman là maintenant, ça peut être mon patron, ça peut être mes clients, mes collègues, mes camarades, tout ce qu'on veut. On regarde quel est le contexte. Et dans le contexte, fatalement, il y aura toujours, soi, et puis un ou des autrui à définir selon le contexte. Et rien que ça, rien que le fait de se poser, puis de se poser la question, bon, là, aujourd'hui, à 16h, quand j'étais dans l'émission avec une telle et un tel et un tel, est-ce que je me suis surestimé? Est-ce que je me suis sous-estimé? Est-ce que j'ai surestimé Anne? Est-ce que j'ai sous-estimé Anne? Rien que le fait de se poser cette question, ça nous permet de réfléchir calmement à la situation. Peut-être qu'on va s'apercevoir que le problème n'était pas un problème d'estime ou de surestime ou de sous-estime. Parce que, à nouveau, c'est pas le couteau suisse. C'est génial! Enfin, ça résout pas tout. Le couteau suisse, si vous voulez faire de la chirurgie cérébrale avec le couteau suisse, ça va pas le faire. Donc, éventuellement, on va s'apercevoir que le couteau suisse n'a pas d'intérêt. Mais rien que le fait d'y avoir déjà réfléchi va faire en sorte qu'éventuellement, on va se rendre compte « Ah, c'est pas un problème d'estime, etc. » Ah oui, mais Anne, elle est indonésienne. Elle parle mal le français. On n'a pas arrêté de faire des vannes. Elle n'a rien compris. Elle n'a pas saisi les allusions. Elle a tout pris à la lettre. C'est pour ça qu'elle est partie en hurlant, en disant « Bande de salopards ». Non, c'est qu'elle n'a pas compris les vannes. Rien à voir avec une sous-estime ou une surestime. Mmh. Mais le fait qu'on soit quand même posé la question, Anne, pourquoi est-ce qu'elle est partie? Est-ce que c'était parce que je l'ai sous-estimée? Est-ce que parce qu'elle me sous-estimait? Est-ce que c'est... Ça permet de lancer le truc. Ça permet aussi... Il y a un vieux proverbe français qui dit qu'il faut tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de... Ben, au lieu de se livrer à la colère, ou à la honte, ou à l'indignation, se poser d'abord ces questions-là, il y en a quatre quand même, pendant qu'on se les pose, on n'est pas ou on est moins en colère, en indignation, etc. Alors, juste pour te donner un exemple, donc ce livre, c'est moi qui en suis officiellement l'auteur, mais François Graner, en fait, il a joué un grand rôle dedans. Bon, on est complètement d'accord politiquement, on est complètement d'accord sur l'interprétation de cette psychologie, etc. Enfin, de temps en temps, évidemment, tout d'un coup, sur un truc, on n'était pas d'accord. D'autant plus que lui, c'est un physicien, moi je suis un littéraire, donc de temps en temps, il y avait des approches qui ne collaient pas. Et moi, ça m'amuse parce que François, c'est quelqu'un de très, très énergique. Alors, énergique, dans le genre énergique.
D'accord.
Et de temps en temps, malgré tout, tout d'un coup, je le voyais qui s'arrêtait. Et en fait, je savais ce qu'il était en train de faire. En train de se poser la question. Bon, là, maintenant, quelle est ma relation avec Jean-Manuel? Est-ce que je suis en train de faire ceci? Est-ce qu'il est en train de faire cela? Et rien que le fait de s'arrêter de poser la question, et en général, après ce type de pause, tout d'un coup, je le voyais qui souriait, parce qu'il se disait, alors, que ce soit ma faute, la sienne, on s'en fout, c'est pas le problème. Il disait, bon, ben voilà, il y a eu tel... c'est allé dans le mur pour telle raison, changeons ce qu'on peut changer. Alors, c'est d'ailleurs quelque chose que je dis souvent dans le livre, qui n'est absolument pas de moi, mais qui est très souvent dit par les psychothérapeutes dieliens, qui est qu'il faut... il faut avoir le courage de changer ce qui peut être changé, il faut avoir le courage d'accepter de ne pas changer ce qu'on ne peut pas vraiment changer, et il faut surtout avoir la sagesse de reconnaître la différence entre les deux. Ah, évidemment, ça c'est très difficile. Là, c'est pas évident, il n'y a pas vraiment de théorie qui vous permette de garantir à coup sûr que telle chose est changeable et telle chose n'est pas changeable. Cela dit, en matière de psychologie, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses de changeables. Alors, incidemment, j'ai également... je ne connais pas beaucoup sa maman, mais j'ai donc interagi avec elle, et franchement, si tous les ministres des Affaires étrangères de tous les pays du monde étaient comme la maman de François Graner, il n'y aurait jamais de guerre. Il n'y aurait jamais, jamais, jamais de guerre. C'est extraordinaire à quel point elle savait, mais dans tout un tas de situations, toujours trouver le ton, le langage, les mots, l'attitude qui faisait que tout le monde sortait gagnant. Tout le monde toujours sortait gagnant.
Alors, une question. La théorie de la psychologie de la motivation de Paul Diehl emploie souvent des mots très, on l'a dit tout à l'heure, très moraux. C'est-à-dire la vanité, l'orgueil, la jalousie, l'envie, l'égoïsme, etc. Mais alors, est-ce qu'il s'agit... Je suppose qu'il ne s'agit pas d'une morale qui récompense et qui punit.
Ah, complètement. Bien entendu. Et, à nouveau, il s'agit de comprendre. Donc, par exemple, des mots comme vanité, orgueil, jalousie, sont des mots extraordinairement utiles. Sont des mots très très justes. La vanité, l'orgueil, la jalousie, la colère, la surprise, l'indignation, l'envie, l'hypocrisie, la manipulation, toutes ces choses-là, nous savons tous que ce sont des outils humains universels, qu'il est à peu près impossible, par exemple, à mon âge, à 63 ans, si j'avais le culot de dire à quelqu'un « je n'ai jamais manipulé personne ». Moi, hypocrite? Jamais. Menteur? Oh, mais depuis ma naissance, je ne dis que la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, constamment. Bon. Et donc, ce sont des mots qui sont des mots importants. En revanche, on sait pertinemment à quel point... alors, les religions d'abord, ensuite les fausses morales, les idéologies politiques les plus malsaines les unes que les autres, utilisent ces mots-là dans le but premier de punir.
éventuellement de récompenser aussi, hein, mais c'est en général plutôt le bâton que la carotte, mais enfin bon. Alors que dans l'univers d'Hélien, par exemple, le mot vanité, c'est un mot presque neutre dans l'univers d'Hélien. C'est un mot très efficace et très important, parce qu'à nouveau, la vanité, c'est vraiment quelque chose de fondamental dans le comportement humain. Mais, à nouveau, Diel n'en fait pas une étiquette sur une personne. En revanche, avec cette théorie, on peut se dire, voilà, mon comportement, ma réponse, ben, on est dans une discussion, et tout d'un coup, moi, Jean-Manuel, je dis quelque chose, et je le dis de manière telle que tout le monde comprend que je veux dire par là que moi, Jean-Manuel, qui ai beaucoup lu, je suis un homme âgé, donc je sais. Hein, moi, je sais. Et toi, jeune fille de 22 ans, tu m'excuses, mais tu ne sais pas. Voilà une attitude vaniteuse. Ça ne veut pas dire que je suis un vaniteux. Ça ne veut pas dire non plus que l'autre personne est un modèle d'humilité, etc. Mais c'est-à-dire que là, j'ai eu un comportement, une réaction vaniteuse. Et si on me le fait comprendre, ou si je réussis à le comprendre par moi-même, je peux diminuer d'un cran. Ça ne veut pas dire que, par exemple, on peut très bien être vaniteux et avoir raison. Je peux très bien dire à quelqu'un quelque chose qui est tout à fait exact, où c'est moi qui ai raison, c'est lui qui a tort, mais je peux le dire de manière non vaniteuse, ou je peux le dire de manière vaniteuse. De même, la réaction de l'autre personne, quel que soit le degré de vanité que j'y ai mis, peut-être une réaction juste ou une réaction erronée. Ça peut être une réaction vaniteuse, ça peut être une réaction de sous-estime d'elle-même, de cette personne. Oh, mais Jean-Manuel, grand gourou de la pensée d'Hélienne, pardon, votre majesté, je me suis trompé. Et dans ces deux cas, ça n'a aucun intérêt. La vraie réaction, si par exemple c'est moi qui ai raison, c'est l'autre personne qui a tort, c'est que l'autre personne comprenne en quoi j'avais raison. Et vice-versa, bien entendu. Si c'est moi qui ai tort, la meilleure solution, c'est que je comprenne pourquoi j'avais tort et quel est le véritable mécanisme que j'aurais dû analyser. Et à nouveau là-dessus, si on essaye de prendre l'habitude, par exemple, d'utiliser ce carré des estimes et quelques autres instruments d'Hélien, alors il y en a beaucoup plus que ce que j'ai mis dans mon livre, parce que mon livre, il est très court. Diel, il a quand même pondu 10 livres, qui sont en général assez épais. Si on utilise ces outils, si on a vraiment la volonté d'utiliser ces outils, on va, un, devenir quelqu'un de beaucoup plus agréable à fréquenter, et on va soi-même s'éviter tout un tas de frustrations, de malheurs, de colères. Alors, un exemple, moi je sais par exemple que j'ai un énorme défaut, je suis très rancunier. Mais alors rancunier, tu n'imagines pas. Puis rancunier, la pire espèce de rancunier, c'est-à-dire le type qui attend 20 ans pour se venger. C'est vraiment un défaut dont j'ai honte. Je me dis, mais enfin, Jean-Manuel, c'est lamentable, tu devrais être au-dessus de tout ça, etc. Heureusement, il m'arrive aussi de temps en temps de me dire, non, Jean-Manuel, là, tu voulais dire ça, tu voulais faire ça, et c'est par pure rancune. Parce que cette personne-là, il y a 2 ans, elle t'a dit ça, et puis là, tu te dis, paf, je vais lui rentrer dans la gueule. Non, ça n'a aucun intérêt, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour elle. Et ça, à nouveau, ce type d'analyse de ma part, qui n'est pas assez fréquente, je le dois absolument à la connaissance de la théorie de Diel. Alors, on pourra dire, oui, mais il n'y a pas besoin de Diel pour le faire. Bien entendu. Mais le grand avantage, c'est que si on se lance dans l'étude, puis surtout dans la pratique de cette théorie, eh bien, ce genre de réaction tout à fait saine, eh bien, on les aura beaucoup plus souvent.
Donc il y a aussi cette idée d'éviter les extrêmes avec le curseur qui ne nous fait pas aller trop vers... Alors, ce qui est appelé ici aussi un surmoralisme ou sous-moralisme.
Voilà. Alors, par exemple, moi, c'est une métaphore, celle du curseur, à laquelle j'ai eu recours dès le début dans ce livre, parce que c'est fondamentalement ce que dit Diel. C'est-à-dire... Ça vient d'une très, très vieille notion, Paracelse. Tu sais, le gars, mi-médecin, mi-alchimiste, bon, Paracelse a dit des tonnes de conneries. Bon, c'était de son époque. Oui. Mais Paracelse a dit quelque chose d'extrêmement intelligent. Il dit, il n'y a pas de poison. Le poison est dans la dose. De fait, si nous prenions tous les deux 2 molécules d'arsenic, je dis bien molécules, il ne nous arrivera rien. À supposer que nous soyons suffisamment idiots pour consommer chacun 1 gramme d'arsenic, alors je suis pas médecin, mais je présume que ça va nous faire des gros problèmes. Donc, le poison, il est d'abord dans la dose. Et ça, c'est vraiment une caractéristique fondamentale de la pensée d'Hélienne. Et il y a par exemple quelque chose d'extrêmement amusant que dit Diel. Il le dit assez souvent, il dit « attention, méfiez-vous, si vous appliquez ma théorie, si vous appliquez... » Alors, il dit jamais « ma théorie hein. », il n'était pas mégalo. Si vous appliquez ces outils, etc., méfiez-vous. Ne vous croyez pas supérieur à ceux qui ne les appliquent pas. Et ça, par exemple, alors c'est pas exactement le surmoralisme, mais c'en est pas loin. Alors le surmoralisme, pour une fois, ça c'est une expression extrêmement facile à comprendre. Hein. On a tous rencontré ces gens, en particulier dans le milieu anard, qui, étant légitimement obsédés par la morale, néanmoins veulent que tous les comportements à tous les instants soient moraux et peuvent éventuellement tomber dans l'erreur de croire que les capacités morales des êtres humains sont très supérieures à la réalité. Il y a autant de satisfaction illusoire dans le surmoralisme que dans, on va dire, l'usage normal, banal, fréquent de la morale. Et le sous-moralisme est évidemment... Alors, moi, j'aurais quand même tendance à dire que souvent le sous-moralisme est... On va dire que dans la vie quotidienne, le sous-moralisme est infiniment plus dangereux que le surmoralisme. Et que le surmoralisme, il est dangereux quand il s'agit de gens qui ont du pouvoir. Parce qu'évidemment, un chef d'État, un professeur de médecine, un chef d'entreprise surmoraliste, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Les chefs d'entreprise surmoralistes, à mon avis, ne doivent pas être très fréquents. Enfin, il doit y en avoir. Là, c'est très dangereux parce que si quelqu'un comme ça a le pouvoir, il peut vraiment faire chier beaucoup de monde. Le sous-moralisme est évidemment très répandu. Alors là, à nouveau, chef d'entreprise, politicien et compagnie, alors là, c'est presque...
C'est-à-dire un plaisir d'être dans la subordination?
Ah non, alors, le sous-moralisme... alors, tout d'abord, une première caractéristique, pour en revenir au carré des estimes, les caractéristiques du sous-moralisme, c'est de sous-estimer autrui.
Oui.
De sous-valoriser autrui.
Oui.
Parce que quand on dit sous-estimer autrui, on pense à la phrase française classique, se dire on croit que c'est un imbécile alors qu'il est intelligent.
Oui, oui,
non.
Oui.
Non, là, en disant sous-estimer, c'est sous-valoriser la personne, c'est-à-dire que là, ma décision, je m'appelle Emmanuel Macron, je veux entrer dans l'histoire comme l'homme qui a libéré la France du fardeau des retraites.
Oui.
Et ça, voilà, c'est ma satisfaction illusoire. Mmh. Et le fait que supprimer 2 ans de retraite aux gens, c'est d'une cruauté, d'une brutalité sans nom, c'est infâme, ça mérite l'instrument du docteur Guillotin. Hein? Eh bien, ceci, voilà un pur exemple de sous-moralisme. Le petit Macron... à la bouche, il a rarement à la bouche le mot moral. Ce sont ses acolytes et tous ces petits étrons mineurs qui le suivent, qui eux font étalage de pseudo-morale. Mais ça, cette attitude, c'est complètement une attitude sous-morale parce que là, autrui n'existe pas. Autrui, alors on en reprend, c'est pour reprendre la phrase de Kant, les moyens et les fins. Là, autrui dans la destruction des retraites par Macron, c'est un moyen. C'est le moyen d'arriver à un pseudo-équilibre budgétaire dont tout le monde se fout. Et autrui n'est plus une fin, alors que les retraites, l'idée même profondément de la retraite, c'est que de considérer toute personne âgée comme une fin en soi, comme un objectif en soi, comme quelqu'un dont le bonheur, la sécurité, la santé sont un objectif à suivre en soi, de manière inhérente et absolument incontournable, inattaquable. Et Là, c'est très important parce que cette histoire de sous-moralisme, et ça n'est pas loin de ce dont on a discuté un peu avant, la banalisation,
oui.
Hein, c'est très souvent en parallèle. Parce que si on décide, dans la banalisation, d'avoir les plaisirs les plus, d'avoir le moindre effort dans la loi, de suivre la loi du moindre effort dans le fait d'obtenir ces satisfactions, évidemment, on devient très vite amoral ou immoral ou sous-moral, parce que respecter autrui, faire entrer autrui dans le calcul de satisfaction auquel on se livre, c'est plus difficile que de dire... Hein, c'est toujours plus difficile d'avoir une équation avec 5 facteurs qu'une équation avec juste 2 facteurs. Donc, c'est extrêmement tentant, c'est l'un des dangers de la banalisation au sens d'Hélien, que de tomber très vite dans l'abandon de la morale.
Alors, il y a des... En effet, bon, on vient de le voir, il y a des dangers et des menaces que nous pouvons rencontrer à cause des déformations de l'estime de soi.
Mm-hmm.
Tu es, par exemple, l'angoisse de réputation.
Ah, alors, voilà, l'angoisse de réputation, c'est un des moteurs de la vanité. Pourquoi ? Parce que l'angoisse de réputation, ça, c'est se demander, mon Dieu, c'est le qu'en dira-t-on ?
C'est la terreur
du qu'en dira-t-on.
Combien de fois... J'ai pu m'inhiber en me référant au jugement qu'on portait ou que je supposais qu'on portait sur moi.
Exactement. Et donc, là aussi, le premier outil pour ne pas être victime de l'angoisse de réputation, c'est ce fameux carré des estimes.
Oui.
C'est extrêmement simple, parce que les gens qui sont victimes de l'angoisse de réputation, qui sont terrifiés tout le temps par l'idée « mais que va-t-on penser de moi ?», elles surestiment autrui. Elle surestime le jugement d'autrui. Et comme on le sait, ça a des conséquences qui peuvent être, déjà qui peuvent être des conséquences négatives. Le simple snobisme, le simple suivisme, le simple conformisme, c'est déjà une mauvaise chose. D'abord parce que ça vous éloigne des choses qui vous feraient vraiment plaisir à vous-même. Et puis ensuite, c'est parce que ça vous rend complètement manipulable. Le conformisme, c'est quelque chose qui a permis à tous les fascismes, au nazisme, au franquisme, etc., d'arriver au pouvoir et de se maintenir. C'est évidemment aussi tout ce qui permet à tous les conservatismes de se maintenir. C'est ce qui empêche toutes les libérations de toutes les minorités, quelles qu'elles soient. Alors, on prend par exemple dans tout ce qui est minorité sexuelle ou combat contre le genre, etc., bien évidemment, l'angoisse de réputation, c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences dramatiques. On peut, par exemple, découvrir qu'en fait, on voudrait bien être homosexuel, et puis on n'ose pas, parce qu'être homosexuel, c'est mal vu, et qu'est-ce qu'on fait ? Oh ben, on devient prêtre catholique, parce que comme ça, on n'a pas besoin de se marier. Et puis, comme on a quand même très très peur, on va pas, même si on est prêtre catholique, on va pas aller draguer du beau mâle, mais du beau mâle inconnu. Ah, puis alors c'est curieux, on a un cours de catéchisme avec des jolis petits garçons de 13 ans. Boum. Là, c'est l'angoisse de réputation pure. Si les prêtres pédophiles ne souffraient pas de cette angoisse de réputation, il y a déjà de fortes chances qu'ils ne commettent pas ce qu'ils commettent.
Mmh.
Et donc, on voit que, à nouveau, la dose est dans le poison. S'inquiéter de l'opinion d'autrui, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, jusqu'à un certain point. Au-delà de ce point, et à nouveau, c'est un point qu'il est impossible de fixer de manière abstraite, législative, définitive. Tu te foutras d'autrui jusqu'au degré 4, mais au degré 5, c'est impossible.
Oui.
À nouveau.
Chacun est différent.
Chacun est différent, et différent. En plus, non seulement nous sommes différents les uns des autres, mais Jean-Manuel Trémon à 63 ans, dans un studio de Radio Libertaire, n'est pas Jean-Manuel Trémon de 54 ans, à Sydney en Australie, ça n'est pas Germinal Tremon à 22 ans, au Danemark, à Christiania, etc. Ça n'est pas Germinal Tremon tout seul, ou devant 30 personnes, ou avec juste un intervieweur dans un studio fermé. Et ça, évidemment, c'est le cas pour absolument tout le monde. Nous changeons en permanence, et ça, c'est vraiment, je l'ai déjà dit, la flexibilité et le fait de comprendre et d'être conscient que nous devons être flexibles parce que la réalité change constamment, c'est une constante de cette théorie.
Alors, bon, encore un petit point ou deux pour finir. Il y a aussi la question, apparemment, de la dissolution des rancœurs qui est très difficile à accomplir, apparemment.
Ah, absolument. Alors là, c'est une des rares expressions d'Hélienne que j'ai conservée parce qu'elle est... Elle est fabuleuse. La dissolution des rancœurs. Alors, évidemment, comme je t'ai avoué un peu plus tôt, moi, je suis un rancunier. Quand on m'a fait une saloperie, je dis rien sur le coup. Puis on s'est là, puis ça grandit, ça pourrit, mais ça pourrit loin dedans, là. Pour aller la chercher, il faut creuser. Et donc, ce mot dissolution des rancœurs, c'est fabuleux. Je ne l'ai jamais connu, hein. Il est mort, j'avais 12 ans. Mais j'aurais tendance à penser que ça devait être un psychothérapeute absolument fabuleux, qui devait avoir un nez pas possible. J'en sais rien, mais je présume que oui. Et là, effectivement, c'est là où, par exemple, un psychothérapeute peut aider. Parce que moi, je sais qu'il y a certaines personnes contre qui j'ai eu des rancœurs pendant des années et des années. Peut-être que si j'avais eu le courage d'aller voir quelqu'un, de lui dire « Ouais, ce machin-là, ce mec, putain, le salaud, tout ce que je veux, c'est en faire du jambon, et encore du jambon rôti, longtemps !» Peut-être que cette personne, ce ou cette thérapeute, aurait fait en sorte que je puisse me libérer de ça. Parce que, il y a d'ailleurs cette expression horrible américaine, quand justement il y a deux personnes comme ça... qui se détestent, ou qu'il y en a une au moins qui déteste l'autre, enfin en général c'est réciproque, et qu'il y en a une qui est particulièrement cruelle, et qui veut rester dans la tête de l'autre. Et il dit, haha, you live rent-free in my head. No, I live rent-free in your head. Je vis sans payer de loyer dans ta tête.
Rent-free, oui.
Hein? Et ça, c'est vrai que c'est une des choses les plus cruelles qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est de devenir une obsession dans la tête de cette personne. Et là, la dissolution des rancœurs, c'est une des plus belles choses qu'on puisse faire pour un autre être humain, ou faire pour soi-même, parce que, et là le français nous aide, la colère colle. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris dans ma vie, la colère colle. Et la vraie liberté, c'est de savoir se libérer de toutes les colères inutiles. Certaines colères sont utiles.
Oui.
Nos colères d'anarchistes contre tout un tas d'ignominies et d'injustices dégueulasses, il faut surtout pas s'en libérer parce qu'elles sont essentielles, elles sont nécessaires. Mais beaucoup de colères interpersonnelles, quels que soient les torts éventuels que l'autre personne a, c'est quand même beaucoup plus simple de s'en libérer. On se sent mieux après, si on arrive à dissoudre tel ou tel. Et c'est d'ailleurs l'un des succès du christianisme. Le christianisme, c'est une religion qui a eu l'intelligence de mettre au centre de sa religion, au centre de son dogme, de ses satisfactions illusoires, celle du pardon. C'est l'un des trucs qui marche le mieux psychologiquement avec le christianisme. Alors évidemment, il y a une hypocrisie folle qui dit que le christianisme dit « il faut pardonner à autrui ». En réalité, on dit qu'on veut pardonner à autrui parce qu'on veut surtout que autrui nous pardonne. Hein, c'est pas pour rien qu'il y a la confession. Mais c'est une des preuves que ce mécanisme de dissolution des rancœurs, c'est quelque chose dont on a tous envie, mais que pour la plupart d'entre nous, on a un mal de chien à accomplir, à nouveau, parce que la colère colle. Et encore une fois, quand on essaye de dissoudre soi-même, par soi-même, sans l'aide d'un thérapeute ou d'une thérapeute, ses rancœurs, à nouveau, le carré des estimes est super utile. Parce que, à supposer, par exemple, que je passe mes nuits à haïr mon voisin d'en face. Non, mais je le surestime. Mon voisin d'en face, qui éventuellement ne sait même pas que j'existe, il n'en a rien à péter de moi. Alors pourquoi est-ce que je lui donne un tel poids dans ma psyché, dans ma rumination nocturne, dans mes ruminations diurnes? C'est complètement idiot. Même si éventuellement il fait quelque chose de désagréable, j'aime pas sa cuisine, il fait du bruit, il est de gauche, je suis droite, il est de droite, je suis de gauche. Mais au bout d'un moment, revenons-en à l'estime juste de ce gars qui est juste mon voisin d'en face, qui n'a pas la moindre idée du fait que j'existe. C'est très difficile, la dissolution des rancœurs, mais c'est l'une des plus belles choses que cette théorie puisse nous offrir. Que ce soit avec l'aide d'un thérapeute ou que ce soit par nous-mêmes, travailler à ça, c'est fabuleux. Très honnêtement, je ne sais pas dans ta vie à toi, moi je vois dans ma vie à moi, quand je me souviens de mes années de lycée, je me souviens de tel ou tel condisciple que je haïssais, dont j'avais peur. Et maintenant, je me dis, mais pourquoi est-ce que la pensée de ce type a pollué ma tête pendant des années? Et à nouveau, parfois, c'est le gars en question pouvait éventuellement n'être quasiment pas conscient que j'existais, ou en tout cas me considérait comme le décor sur le mur.
Eh bien, merci.